on est arrivé, on a parcouru, on est parti, je le dis pour Bernard, ça nous donnera la perspective, on est parti de l'ancien régime jusqu'à 1940, puisque la dernière fois, on a fait une petite séquence du Front populaire au régime de Vichy, et donc maintenant, on va aborder, alors dans la suite du cycle, on va aborder l'après-guerre, évidemment, continuer un petit peu la logique chronologique que j'ai adoptée jusque-là, et puis après, on fera des entrées un peu thématiques. Je l'avais évoqué la dernière fois, mais je pense qu'il y a des choses comme la question du logement, qui mérite une approche un peu transversale, une fois qu'on aura parcouru le cycle chronologique. Donc ce soir, grand moment, hein, la sécurité sociale, évidemment, si on prend même la thématique que j'ai suivie depuis le début, la sécurité sociale marque une rupture fondamentale, je ne vais pas effleurer le sujet, mais c'est pour ça que j'ai pensé qu'il était sage de faire intervenir quelqu'un qui en est un excellent connaisseur, j'allais dire un expert, mais c'est un peu plus que ça même. Donc, Bernard, qui a écrit plusieurs ouvrages tournant autour de ces questions, et qui donc, me semble-t-il, a tout à fait le souffle pour vous tenir en haleine pendant l'heure ou l'heure et demie d'exposé qui est rituel ici. Et on voit pas trop les gens souffrir, donc j'ai pensé à Bernard, parce que je sais qu'il est tout à fait en mesure de nous passionner sur ce sujet qui est effectivement passionnant, et donc je lui cède tout de suite la parole.
Merci Jean-Marie, merci à vous, et je souhaite un débat fructueux. Mon topo sera en deux temps, d'une part ce qui se construit. Je vais un peu revenir en arrière parce que la logique, c'est plutôt 1930-1980. 45, c'est un élément décisif, mais qui est quand même dans la continuité des 15 années précédentes. Et puis l'enjeu de la réforme, c'est-à-dire de ce qui se fait depuis 80. Sur la période 1930-1980, je vais prendre pour l'essentiel, sauf un des thèmes, la sécurité sociale à travers ses branches, comme on dit, c'est-à-dire les allocations familiales, l'assurance maladie, la vieillesse, les pensions, et puis le chômage, hein, les quatre grandes branches. Et puis je ferai aussi une réflexion sur la gestion du dispositif, les caisses de sécurité sociale. Donc il y aura 5 points. Et je vais sur ces 5 points balayer les 50 ans, 30-80, mais en assistant évidemment à ce qui est postérieur à 45, bien sûr, parce que j'ai déjà abordé le reste. Le cœur de la sécurité sociale, ce sont les allocations familiales. Et donc c'est par ça qu'il faut commencer, parce que c'est le point le plus central. Ça représente la moitié des dépenses de sécurité sociale en 45 et jusqu'à la fin des années 50. Et dans un budget populaire, si on prend la famille ouvrière moyenne de 3 enfants, ça représente la moitié des ressources monétaires. La moitié des ressources monétaires dans un budget populaire, ce sont les allocations familiales. C'est donc tout à fait majeur. C'est à l'époque, à la fin des années 40, nous sommes à 32% de cotisations sociales, le taux est 32%, dont 16% aux allocations familiales et 16% aux assurances sociales, celles qui sont nées en 1930, dont Jean-Marie vous a parlé la dernière fois, et qui représentent la santé et la vieillesse. Et les allocations familiales sont en déficit qui est compensé par l'excédent des assurances sociales. Les assurances sociales sont excédentaires très longtemps parce que les droits à retraite sont quasiment nuls et les droits, la possibilité de dépenser de l'argent, enfin ou plutôt de se présenter comme assuré social dans le système sanitaire est très faible également. Mais ça, je vais revenir. Donc le cœur du dispositif, c'est les allocations familiales. Et ça vaut le coup d'y réfléchir parce que ça introduit tout de suite une dimension absolument essentielle de la sécurité sociale. C'est-à-dire que ce sont les employeurs, hein, il n'y a même pas de cotisation salariée en matière de famille, les allocations familiales sont financées par une cotisation exclusivement employeur. C'est toujours le cas aujourd'hui, sauf depuis l'innovation Rocard de la CSG, mais ça, j'y viendrai dans la réforme. Et donc, les employeurs payent des gens pour tout à fait autre chose que pour du travail. Et les gens en question, c'est des ouvriers et des employés, c'est-à-dire ceux pour lesquels les allocations familiales ne sont pas de l'argent de poche, hein, ceux pour lesquels ça représente la moitié des ressources monétaires. Donc, c'est extrêmement important de voir comment la sécurité sociale, c'est du salaire, bien sûr, hein, c'est à l'occasion des emplois que les employeurs versent une cotisation, c'est du salaire qui sert à toute autre chose qu'à payer du travail subordonné. C'est important parce que on identifie en général salaire et travail subordonné, hein, ou salariat et travail subordonné, ce qui est historiquement totalement faux, hein, comme j'aurai l'occasion de le montrer par la suite. Sauf si on a une définition juridique du salarié, comme celui qui a un contrat de travail, bien sûr. Mais ça, quelqu'un qui, même sans jamais avoir d'emploi, touche des allocations familiales, c'est un salarié, au sens où il vit du salaire. J'y reviendrai. Et c'est même la première ressource proprement salariale des ouvriers et des employés. Parce que enfin, des employés ne faisant pas d'anachronisme. À l'époque, les employés, c'est des mensuels, on va dire des ouvriers. Aujourd'hui, hein, les plus démunis des salariés, ce sont les employés. Hein. Les ouvriers ont un niveau de qualification qui fait que le salaire moyen des ouvriers est supérieur au salaire moyen des employés. Mais enfin, à l'époque, nous sommes, c'est les employés, c'est les ouvriers qui sont les plus les catégories la plus populaire, disons, dans le salariat. Et leur salaire direct, c'est tout sauf du salaire. C'est un truc de la main à la main, par quinzaine. Les chèques, c'est au-delà de 1000 francs, mais 1000 francs, on se battait pour le SMIC à 600 francs, rappelez-vous, en 68, pour les plus âgés d'entre nous. Parce qu'il était à 400 francs à l'époque, donc 1000 francs, c'est une somme qui ne concerne pas les ouvriers. Donc le salaire est payé de la main à la main par l'employeur. Les conventions collectives parlent du salaire horaire. La mensualisation interviendra que beaucoup plus tard, à la fin des années 60. La variable explicative du niveau de ressources des ouvriers, c'est le nombre d'heures de travail, c'est pas le prix horaire du travail. Donc ce que décident les conventions collectives n'a pas grande importance. Je suis en 45, hein, ça changera avec les conventions collectives postérieures à 1950. Le salaire ouvrier est pratiquement inconnu, il ne fait l'objet de quasiment aucune statistique. Le patron fait semblant, en tout cas, de découvrir le salaire ouvrier à Matignon, rappelez-vous, les accords Matignon et la surprise du patronat quand la CGT lui donne des statistiques sur les salaires ouvriers. Nous sommes dans la relation privée. C'est une ressource privée que d'ailleurs le salarié va remettre tout de suite, dès qu'il la touche, aux commerçants chez lesquels il a ouvert un livre de dette. C'est de la monnaie qui n'est pratiquement jamais dans la main du salarié en tant que tel. Donc c'est pas par le salaire que les ouvriers entrent dans le salariat, c'est par les allocations familiales qui, elles, sont une ressource publique. C'est une ressource nationale, très vite nationale. Au départ, c'est départemental. Peut-être que tu as eu le temps d'en parler. Bon, c'est né en 33, mais bon, je vais pas revenir trop sur l'historique de tous ces points. Mais c'est une ressource qui obéit à une règle nationale. C'est une ressource qui est payée par les employeurs, mais qui fait l'objet d'une délibération politique, hein, ce qui est le propre du salaire précisément. C'est pas une ressource privée, le salaire. Et curieusement, la partie la plus salariale des ressources des ouvriers, qui n'est pas rien, puisque c'est la moitié de leurs ressources monétaires, les payent pour faire autre chose que du travail subordonné. Alors évidemment, il y a un risque que l'on connaît très bien, ce qu'on appelle l'intéressement du RMI aujourd'hui. Il y a un risque lorsque une ressource forfaitaire, puisqu'elle est forfaitaire, elle est liée au nombre d'enfants, là aussi, verser du salaire pour autre chose que du travail subordonné, ça a été l'objet de conflits énormes. Qu'est-ce qui légitime un tel versement lorsque c'est les enfants légitimes, les enfants naturels, le premier enfant, le deuxième, le troisième, etc. Enfin, il y a eu des tas de débats. Ça, est-ce que c'est aussi, c'est ce qu'avait fait Vichy, c'est le fait que la femme ne travaille pas. C'était ça. Ils avaient renoncé à ce que les allocations soient liées au nombre d'enfants. C'était l'allocation de la mère de famille, l'AMF. Bon. Donc tout ça a fait l'objet de débats énormes que j'ai pas le temps évidemment de reprendre, mais ce qui est tout à fait passionnant, c'est qu'encore une fois, au cœur de la sécurité sociale, il y a une ressource monétaire par délibération publique, financée par les employeurs, qui concerne d'abord les ouvriers et les employés, les moins qualifiés, et qui les paye à ne rien faire, du point de vue du patron. Il faut que ça fait réfléchir sur ce que c'est que le salaire, qui n'est pas le prix de la force de travail, comme on le dit de façon un peu anonante, je dirais. Les ouvriers qui accèdent au salariat par les allocations familiales n'auront comme salaire direct cette fois-ci une ressource délibéré politiquement dans la convention collective, qu'après la convention collective de la chimie de 53, et surtout après la mensualisation, lorsque ce n'est plus le nombre d'heures qui est la variable déterminante dans leurs ressources, là, beaucoup font deux journées, hein, bien sûr, jusqu'à la fin des années 60, mais un salaire mensuel, hein, et que les horaires deviennent des mensuels, comme l'étaient les ouvriers, et les employés et les cadres depuis déjà les années 20. Voilà pour les allocations familiales. Ça n'a rien à voir, je le dis tout de suite, hein, avec le catholicisme social, je sais pas quoi, enfin toutes ces histoires-là, ça c'est de l'histoire racontée après coup, mais ça n'a rien à voir. Elles sont dans la fonction publique. Enfin bon, je n'ai pas le temps d'y revenir. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, cette fois-ci, c'est sur les retraites. Les retraites et dans les deux dimensions qui existent en 45, parce que le reste c'est peanuts, c'est la GIRC et la fonction publique. La GIRC d'abord, donc AGIRC pour ceux qui n'étant pas cadres dans le privé ne connaissent peut-être pas la GIRC, Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres. La GIRC apparaît avec le mot cadre, hein, vous savez que jusque en 44, les cadres s'appelaient collaborateurs, mais que c'était devenu politiquement incorrect. Donc, il a fallu à toute vitesse inventer un nouveau nom qu'on a été chercher dans le vocabulaire militaire, les salariés des cadres et ensuite les cadres. Le mot collaborateur est revenu depuis, hein, d'ailleurs, depuis quelques années, on parle à nouveau de collaborateur, mais les cadres, donc, ne relevaient pas des assurances sociales, ça vous l'avez vu avec Jean-Marie, puisque les assurances sociales, il y avait un plafond d'affiliation, hein, ne relevaient des assurances sociales de 1930, c'est-à-dire en matière de maladie et de vieillesse, que les salariés dont les salaires étaient inférieurs au plafond d'affiliation. Or, la nouveauté de 45, c'est de remplacer le plafond d'affiliation, les ordonnances de 45, c'est de remplacer le plafond d'affiliation par un plafond de cotisation. C'est-à-dire que tout le monde est affilié, y compris les cadres, au régime général de sécurité sociale, mais ne cotise que sur la base du plafond de cotisation. Le plafond d'affiliation se transforme en plafond de cotisation. En matière de santé, ça ne pose aucun problème parce que le nouveau dispositif, le régime général, donc des ordonnances de 45, garantit à peu près les mêmes droits à santé que les régimes des collaborateurs qui avaient été mis en place dans les entreprises pour les cadres et les employés mensualisés, les plus payés. Les autres mensualisés étaient relevés des assurances sociales. En revanche, en matière de vieillesse, les collaborateurs bénéficiaient de régimes ad hoc, donc de régimes d'entreprise, plus favorables que le nouveau régime de sécurité sociale. Et donc, le deal politique, disons, pour obtenir l'entrée des cadres dans le régime général, ce qui était un enjeu énorme, je vais y revenir, c'est de créer pour eux un régime complémentaire en matière vieillesse. Et ce régime complémentaire, qui vient donc en supplément de la pension du régime général, se crée en 47, en mars 47, après une négociation dirigée par Ambroise Croizat, qui était le ministre de la Sécurité sociale. Là encore, je vais vraiment à la hache, hein, en essayant de dégager ce qui me paraît tout à fait essentiel. Qu'est-ce que ça a d'essentiel? C'est que c'est un régime en répartition. Ce n'était pas du tout acquis d'avance. Les collaborateurs relevaient depuis les années 20, pour l'essentiel, mais parfois depuis plus longtemps, de régimes en capitalisation garantis par des compagnies d'assurance. Et ils vont choisir massivement leurs représentants, alors à la fois la CGC qui se constitue à cette époque-là, mais surtout la CGT et la CFTC, qui sont les deux syndicats qui négocient essentiellement les accords de 47, avec un CNPF un peu boiteux parce qu'il a une légitimité assez faible à l'époque, et une administration relativement déterminée et en capacité de faire valoir ses choix. Les représentants des cadres vont choisir la répartition. C'est eux qui la revendiquent contre la capitalisation, à la fois parce que l'inflation de guerre a rendu les régimes en capitalisation, leur régime en capitalisation assez peu performant. Mais c'est pas tellement pour ça, c'est parce que s'il y a que la répartition qui permet aux partants en retraite d'avoir une retraite complète, éventuellement. La répartition ne demande pas de cotisation préalable, puisque la répartition répartit par définition les cotisations de l'année. Donc il suffit que, encore faut-il que la volonté politique soit là, mais elle était là pour les cadres, elle n'était pas là pour les autres salariés, nous le verrons. Il suffit que le taux de cotisation soit suffisamment fort dès le départ, pour que, dès le départ, il y ait reconstitution de carrière. Ce qu'on appelle la reconstitution de carrière, c'est-à-dire que on calcule comme si, en fonction de la durée de carrière de l'intéressé, comme s'il avait cotisé, et on lui attribue tout de suite la retraite auquel il aurait eu droit si le régime avait existé depuis qu'il travaille. Donc les cadres vont avoir, dès le départ, des retraites complètes, dès 47. Et jusqu'à la fin des années 70, la GIRC va distribuer ce qu'on appelle des prestations non contributives, c'est-à-dire des prestations qui ne correspondent pas à des cotisations préalables. Mais ce qui montre bien que c'est le fondement même de la répartition. La répartition n'exige aucune cotisation préalable, la répartition exige simplement que le niveau actuel des cotisations soit assez forte pour garantir les prestations distribuées. Donc l'enjeu est tout à fait important, d'une part parce que la partie la plus qualifiée du salariat, qui jusqu'ici relevait de la rente, adopte le salaire, c'est-à-dire un flux sans épargne. La caractéristique du salaire, c'est d'assurer demain par l'aujourd'hui. C'est ça le point. C'est de rendre inutile l'épargne. C'est ça le salaire. Le salaire, c'est ce qui rend l'épargne inutile. Et il faut le rappeler aujourd'hui, bien sûr. Je conclurai là-dessus. C'est le salariat comme réponse à la crise actuelle, bien sûr. Mais un salarié, c'est pas quelqu'un qui ne peut pas épargner. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'épargner. C'est tout à fait différent. C'est une technologie sociale entièrement nouvelle qui envoie au plot la prévoyance, qui envoie au plot la nécessité d'épargner. mais qui aussi voit, du coup, envoie au plot la logique même du capitalisme qui repose justement sur ce rapport au temps assez curieux où il s'agit de prévoir par des accumulations locales de capital. Tout ça est absolument inutile. Nous en avons fait la preuve d'ailleurs, hein, les systèmes qui fonctionnent sans épargne en matière de retraite ont des résultats globalement supérieurs et en tout cas beaucoup moins aléatoires que les systèmes qui fonctionnent avec épargne. Donc là, c'est très fondamental que la partie la plus qualifiée du salariat entre dans le salariat, renonce à la logique de la prévoyance. Adopte ce nouveau rapport au temps qui est que demain se résout aujourd'hui, et non pas dans une épargne en vue de demain. Par la socialisation du salaire, par la socialisation d'une partie du salaire. Il n'y a que de l'aujourd'hui en économie. Ceux qui nous font peur avec des projections sur demain nous bourrent le mou, hein, bien sûr, mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. L'autre importance de la GIRC, c'est que ça va rendre impossible les caisses d'entreprise. Les fonds de pension, qui sont une des calamités essentielles du siècle, hein, puisque ce sont les fonds de pension comme investisseurs institutionnels qui sont les plus décisifs, hein, dans la logique de retour sur investissement, etc., et qui sont le cœur de l'accumulation financière aujourd'hui, les fonds de pension sont une invention très récente, début des années 70, lorsque les régimes d'entreprise qui ont été créés essentiellement pour les cadres dans les pays qui ne connaissent pas la GIRC, dans lequel il n'y a pas de cadre d'ailleurs. Le mot cadre, c'est une spécialité française. Vous chercheriez en vain l'équivalent linguistique dans d'autres pays. Pour les employés supérieurs, pour reprendre par exemple le terme allemand, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? Eh bien, faute d'un dispositif salarial, nous avons un dispositif de caisse d'entreprise qui, dans les années 70, au début de 70, connaissent des faillites nombreuses. Parce que si vous faites de la répartition, ce sont des caisses en répartition, même pas des caisses en répartition, c'est des caisses, ce qu'on appelle les fonds de pension, c'est jusqu'au début des 70, des caisses, ou même il n'y a pas de caisse éventuellement, c'est l'employeur qui continue à payer ses retraités, en gros. Alors, il continue pas à les payer, loin de là, il leur paye un pourcentage de leur dernier salaire en fonction de la durée de présence dans l'entreprise. Ce dispositif fonctionne tant qu'il y a assez peu de retraités, mais assez vite, les entreprises ont plus de retraités que d'actifs, etc. Bref, ne peuvent pas faire face à cette affaire. Et donc, c'est pour protéger les droits des salariés que dans des pays qui ont une logique d'entreprise en matière de retraite, les entreprises ont été obligées de gager leurs engagements sur de l'accumulation financière. Et les fonds de pension, tels que nous les appelons aujourd'hui, sont apparus à ce moment-là, début des 70, comme élément de protection des droits des salariés, parce que lorsque vous mutualisez un risque à un niveau très faible, celui de l'entreprise, même s'il a 200 000 salariés, on le voit bien à l'EDF ou à la SNCF, il y a un moment où ça marche plus. Et donc, soit vous passez au niveau national, ce qui a été le cas en France, soit, avec le régime général, soit vous gagez sur de l'accumulation financière. Donc le fait que les cadres aient choisi le salaire, et avec de fortes cotisations, le patronat a dû concéder dès le départ de très fortes cotisations, ce qu'il n'a pas fait pour les ouvriers en matière de retraite, loin de là, a coupé l'herbe, disons, complètement sous la possibilité de, et même la nécessité à vrai dire, mais la possibilité aussi pour les employeurs de cotiser en plus ou de financer en plus des caisses complémentaires d'entreprise, mais les rendait inutiles aussi parce que le taux de remplacement des retraites par la GIRC était suffisant, des salaires, pardon, par la GIRC était suffisant. Donc, nous n'avons pas connu les fonds de pension. Pourquoi nous n'avons pas de fonds de pension? C'est à cause de la GIRC. Ce qui n'est pas rien, hein, bien sûr, aujourd'hui. Du côté, et en plus la GIEC, donc comme légitimation de la logique du salaire dans la fraction du salariat la plus attachée à la rente, traditionnellement. Toujours sur ce second point, la fonction publique, je ne sais pas ce que Jean-Marie vous en a dit, mais en 14, vous aviez 1500 statuts, enfin statuts, 1500 grilles salariales, on va dire, dans les seuls fonctionnaires d'État. Progressivement, vous allez avoir une grille unique, et en 46, le statut de la fonction publique résout de façon très élégante, je veux dire, un problème majeur qui se posait depuis l'inflation de la Première Guerre mondiale. L'inflation structurelle est créée avec la Première Guerre mondiale, et la question du mode de calcul de la pension des retraités et de l'indexation de la pension des retraités en fonction de quoi ? La hausse des prix, je veux dire. Depuis 1853, les fonctionnaires ont un régime qui est fondé sur les derniers salaires. Alors c'était un pourcentage, 2% par année. Ça n'a pas bougé, en gros, hein, jusqu'en 2004, depuis 1853. C'était les 6 dernières années comme base de calcul. Alors on est arrivé aux 6 derniers mois, ce qui faisait que l'effet de l'inflation était supprimé. Mais le plus intéressant, ça c'était la suppression de l'effet de l'inflation lors de la liquidation de la pension, hein, prendre en compte non pas les 6 dernières années, mais les 6 derniers mois. Mais restait pendant, ça c'était l'objet de conflits considérables, hein, c'est sur ce point que, par exemple, vous avez le grand conflit de 1919-1920 de la fonction publique, qui se traduit pour je ne sais plus combien, 500 000 mises à pied, non ? Il y a eu un truc énorme. C'est sur cette question-là, de l'indexation des pensions déjà liquidées. Si vous avez une hausse des prix, évidemment, comment est-ce qu'on indexe les pensions ? Donc, qu'un cas, on a indexé sur les prix, mais avec toujours en retard, hein, l'indexation sur les prix est évidemment... à la fois toujours en retard sur la hausse des prix, et d'autre part, évidemment, si les salaires, ce qui est le cas dans le long terme, augmentent plus vite que les prix, fait que le gap entre les retraités et les actifs va en s'augmentant. Le statut de 46 dit que la pension du retraité est indexée sur la valeur actuelle de son indice terminal. Donc, valeur actuelle de l'indice terminal, ça veut dire que chaque fois que l'indice augmente, eh bien, les pensions augmentent exactement au même rythme. Nous avons donc un dispositif tout à fait intéressant dans la fonction publique, qui est un dispositif à la fois sans cotisation. En fonction publique d'État, il n'y a pas de cotisation. C'est l'État employeur qui continue à payer, et il continue à payer, puisque les salaires et les pensions continuent, puisque c'est le dernier salaire qui est la base de calcul de la pension, donc c'est bien un salaire continué, et il continue à payer, puisque les pensions varient exactement au même rythme que les salaires directs. Donc là, ça pose bien la pension comme continuation du salaire, non pas comme contrepartie d'un travail passé, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle n'est jamais, au demeurant, mais comme continuation du salaire. Sur ce modèle, vous allez avoir des régimes spéciaux de pension dans les entreprises publiques, à l'EDF, où on parlera pour désigner la pension de salaire d'inactivité. Le mot est intéressant, parce qu'il l'appelle salaire, très ennuyeux parce qu'il l'appelle inactif, mais ça j'y reviendrai. Ce ce modèle de la pension comme continuation du salaire va gagner le régime public, mais très très lentement, le régime général, pardon, mais très très lentement, par l'indexation des pensions sur les salaires. S'agissant du privé, précisément, bon, le privé, c'est donc Vichy qui arrête la capitalisation en 41, hein, je suppose que Jean-Marie l'a vu avec vous la dernière fois. À cela, le gouvernement provisoire d'Alger dit, nous proteste contre la perte des comptes individuels, enfin, puisqu'en 1930, hein, comme dans la LOLF, comme dans la retraite ouvrière, la ROT, pardon, la retraite était en capitalisation, hein, sur des comptes individuels. Bon, Vichy arrête les comptes individuels, affecte toutes les cotisations à une allocation aux vieux travailleurs, la VTS. Et le gouvernement provisoire d'Alger dit qu'il rétablira la capitalisation à son retour au pouvoir, ce qu'il ne fait pas avec sagesse, mais ça a été un rude conflit. Par parenthèse, de tout cela, le CNR ne dit rien. Il faut arrêter avec la fable du CNR. Il y a une demi-page dans le CNR sur la sécurité sociale, rien du tout. On chercherait en vain un fond dans la sécu dans le CNR. Je dis ça pour contester le fait que l'ambition actuelle du pouvoir soit d'en finir avec ce qui s'est construit de 30 à 80, mais il ne faut pas majorer, pour ce qui nous intéresse, hein, le CNR. Ça, c'est l'histoire reconstruite par les vainqueurs, c'est normal.
Qu'est-ce que c'est que le CNR ?
Le Conseil national de la résistance, qui a un programme, hein, qui a un programme de reconstruction du pays, et dans ce programme, il y a quelques lignes sur la sécurité sociale. Le gouvernement donc tripartite de 44-45 va maintenir la répartition créée, mise en place par Vichy, mais ne pas bouger un dispositif qui reste largement excédentaire tellement les prestations sont faibles. Puisque, à la différence des cadres, il n'y a aucune reconstitution de carrière. Et donc, en 45, les gens ont 15 ans de cotisation au mieux s'ils ont bénéficié du régime depuis 1930, et ils sont très loin d'avoir des pensions importantes. Le régime des pensions ne va devenir... ne va offrir un taux de remplacement, le régime général, ne va offrir un taux de remplacement important qu'après 67, lorsque le patronat récupère la gestion du régime général et accepte une augmentation des cotisations au régime général, qu'il avait refusé globalement jusque-là, et en trouvant dans FO et la CFTC des complices pour... créé parallèlement au régime général, dont il ne voulait pas entendre parler parce qu'il n'en avait pas la maîtrise, des régimes paritaires qui donneront l'ARCO. C'est Force ouvrière qui s'en fait la spécialité, va évidemment parasiter complètement la logique du régime général. Mais ils n'en sont pas les seuls responsables. Le régime général souffre beaucoup du corporatisme des fédérations de la CGT les plus syndiquées, hein, qui vont refuser d'entrer dans le régime général. Les fonctionnaires vont refuser d'y rentrer. Les cheminots vont refuser d'y rentrer. Les électriciens, malgré Marcel Paul, vont refuser d'y rentrer. La Confédération fait le forcing pour obtenir des fédérations qu'elles entrent dans le régime général. Les archives sont tout à fait intéressantes. Mais se heurte à un corporatisme extrêmement puissant qui refuse d'y rentrer. Ça va beaucoup, évidemment, fragiliser le régime général, hein, parce que il va concerner les secteurs les moins syndiqués. Et du coup, les cotisations au régime général ne bougent pas, pratiquement, entre 50 et 60. Alors, j'ai dit 67, parce qu'en matière de retraite, c'est évident, mais il y aura une, je vais venir à la santé, et il y aura une hausse des cotisations santé importante au régime général avant 67, mais. Mais, il est clair que là, on paye très fort, le corporatisme des fédérations les plus syndiquées de la CGT, qui prétendait, ce qui c'est pas vrai, l'exact, hein, que la conquête dans un secteur pouvait être étendue aux autres, et donc, etc., etc. Je crois que le fait qu'elle n'ait pas joué le jeu du régime général l'a considérablement fragilisée. Je reviendrai quand j'aborderai la gestion sur une certaine impuissance syndicale, cette question de la gestion de la sécurité sociale. Le régime général et l'ARCO, donc, qui se constitue comme régime paritaire complémentaire au régime général, à l'initiative de Force ouvrière et de la CFTC, qui se transforme donc en CFTT en 64, et qui dès 59-60 abandonne un peu et entre en une relative unité d'action avec la CGT, qui se concrétisera évidemment en 66 avec toutes les grandes conquêtes, je crois, liées à cette unité d'action des 66-67-68. En matière de pension, le régime général donc va connaître une extension importante avec les lois Boulin de 71. Où on passe des 10 dernières années aux 10 meilleures comme base de calcul, où on passe de 40 à 50 ans, ce qui qu'est-ce que je raconte, de 120 à 150 trimestres, ce qui, avec la hausse des pensions correspondantes, c'est pas une condition pour avoir la carrière complète, c'est au contraire une reconnaissance de cotisation qui était là au moins pour les hommes et qui n'était pas validée. Donc on valide jusqu'à 150 trimestres, ça augmente massivement le taux de remplacement. Disons que le taux de remplacement des pensions, le taux de remplacement c'est donc la première pension nette sur le dernier salaire net. Hein. Le taux de remplacement des pensions devient significatif à partir de la fin des années 70, lorsque les lois Boulin augmentent significativement le régime général. Et rendent obligatoire par ailleurs l'ARCO qui n'était pas dans toutes les branches jusqu'en 71. Ça aboutira avant la réforme. Quel est le panorama de la retraite avant la réforme? On a ça dans ce qu'on appelle un échantillon inter-régime des retraités. Il y a nous avons une statistique extrêmement fiable qui correspond aux carrières effectives de 400 000 personnes comme échantillon inter-régime des retraités, qui tous les 3 ans à peu près fait une photographie du système de retraite. La dernière génération qui n'est pas concernée par la réforme, c'est-à-dire celle d'avant la réforme Balladur, la dernière génération, c'est la génération née en 1930, hein, qui prend sa retraite entre 90 et 95, donc avant les effets de la réforme Balladur. Pour une carrière complète, le taux de remplacement est en moyenne de 84%. Alors, ça veut dire que la carrière complète, 84%, avec une fourchette qui va de 100% pour un dernier salaire de 7500 francs, on est en francs à l'époque, hein, à 60% pour un salaire supérieur à 20 000 francs, 3 000 euros actuels. Donc, le taux de remplacement est tout à fait considérable. C'est évidemment une réussite majeure, hein, de la période, hein, à côté des allocations familiales. Avec une indexation sur les prix, qui va être, et c'est l'an 1 de la réforme en matière de pension, qui va être supprimé en 87, lors de la première cohabitation par Séguin. le maître à penser de Fignon. Un gaulliste de gauche. Voilà donc pour l'agir que la fonction publique et le privé en matière de retraite. Là encore, j'insiste, parce qu'il va falloir ensuite qu'on réfléchisse sur les enjeux de la réforme qui se fait depuis maintenant une vingtaine d'années. Qu'est-ce que ça veut dire que continuer à payer les retraités, qui est le mouvement qu'on observe jusqu'à Seguin, je crois 87. Un mouvement là d'expansion nette, dans lequel le rapprochement entre 84% en moyenne pour une carrière complète, on a quand même un rapprochement important, le rapprochement 100% pour les plus faibles salaires, 60% pour les salaires les plus élevés, cette continuation du salaire, qu'est-ce que ça veut dire de continuer à payer les retraités c'est évidemment, ce n'est pas la contrepartie de leur travail passé, les cotisations qu'ils ont pu payer ou que leurs employeurs ont payé pour eux ont déjà été dépensées depuis longtemps lorsque leur pension est versée. On croit souvent que c'est la contrepartie du travail présent des actifs, que les actifs cotisent pour les inactifs, comme on dit, qu'il y a une solidarité intergénérationnelle. Je n'en pense rien, mais ça, je vous le réserve pour l'enjeu de la réforme. La pension, les pensionnés continuent à toucher leur salaire parce qu'ils travaillent et que c'est leur travail qui est valorisé par la pension. L'assurance maladie, troisième point. L'assurance maladie est en excédent, les travaux du Grevet, tout ça l'ont très bien montré, le dispositif des assurances sociales de 1930 en excédent et comble le déficit des allocations familiales jusqu'à la fin des années 50. Pourquoi ça? Parce que d'une part, l'hôpital n'accueille qu'avec parcimonie les assurés sociaux, on sort très très lentement, c'est Vichy d'ailleurs qui va massivement autoriser l'entrée des assurés sociaux à l'hôpital, mais jusqu'alors les assurés sociaux, comme ils sont solvables, n'ont pas accès à l'hôpital, puisque l'hôpital c'est pour les insolvables. Donc, le système hospitalier végète dans une compétence technique assez faible, soigne peu. Les travaux de Foucault ont montré que, bon, globalement, les médecins s'y font la main sur les pauvres pour pouvoir ensuite réclamer en ville des sommes auprès de la bourgeoisie, qui seule peut les fréquenter. Le système perdure, en gros, jusque dans les années 50. Ce n'est vraiment qu'avec la réforme hospitalière, la réforme Debré de 58, Debré père, le grand-père des Debré actuels, donc le pédiatre, ce n'est qu'avec la réforme Debré de 58 qu'on va avoir une sanitarisation du système hospitalier, avec les CHU, avec une grosse bataille pour la salarisation des médecins hospitaliers, qui a été acquise par le double salaire des chefs de service, comme chef de service et comme prof d'université, le lien entre l'université et l'hôpital, qui a donné du prestige à l'hôpital public, enfin, toute chose qui est énorme et qui engage des dépenses considérables. Là, sur ce point-là, il y a une progression de la cotisation à l'assurance maladie qui est postérieure à 58. Dans les années 50, le taux de cotisation au régime général ne bouge pas, ni en vieillesse, ni en santé. Et puis deuxième raison qui faisait donc où se soignaient les catégories populaires, elles se soignaient dans la médecine publique, la médecine publique qui est relancée considérablement entre deux guerres et qui signe l'échec des assurances sociales en quelque sorte à travers tous les dispositifs de santé publique municipaux, tout le socialisme municipal ou le communisme municipal repose largement sur ce dispositif santé publique. Donc une médecine gratuite a assez peu fréquenté, à vrai dire, fréquenté un peu à reculons. Surtout dans sa dimension hospitalière, la hantise, c'est d'aller à l'hôpital, parce qu'on en sort par les pieds, hein, comme le veut la sagesse populaire. Et les autres grands dispositifs, hein, c'est les hôpitaux psychiatriques et les dispensaires, hein, la lutte contre la tuberculose, les sanatoriums, voilà. Et puis les hôpitaux psychiatriques, qui sont des lieux, bon ça, Antoinette Chauvenet l'a très bien montré, des lieux d'abord de prise en charge sanitaire des catégories populaires. Les choses changent donc du matière hospitalière avec la réforme hospitalière de 58, qui avait été tentée sous la 4ème République, en 56, le gouvernement Mollé avait tenté de faire cette réforme, déjà à l'initiative de Debré Père, mais avait échoué. Devant l'hostilité du corps médical, pour l'essentiel, mais aussi des mutuelles. Les mutuelles, c'est quand même globalement l'adversaire de la sécurité sociale. Et ça le demeure, et ça l'est de plus en plus aujourd'hui. Le deuxième dimension qui fait que l'assurance maladie va succéder à la santé publique, c'est donc le salaire, hein, et non pas l'impôt, comme financement de la santé, le conventionnement médical. Voilà. La loi de 1930 avait prévu un conventionnement, mais c'est un conventionnement départemental et organisé en département. Au niveau départemental, les médecins avaient réussi à éviter ce conventionnement. Finalement, un décret de 60 rend possible le conventionnement individuel et je dirais un par un finalement sauf sur Paris, Lyon, Marseille qui sont les grands lieux de la résistance au conventionnement aujourd'hui encore à Paris et de plus en plus avec le secteur 2, il est difficile de trouver un médecin conventionné, mais en dehors de Paris, Lyon, Marseille qui sont les lieux de résistance au conventionnement, le conventionnement est généralisé entre 61 et 63 complètement. Du coup, c'est non pas le tarif d'autorité, hein, qui était rien du tout, hein, mais un taux de remboursement normal qui s'applique, et donc la médecine libérale devient une médecine populaire, ce qu'elle ne pouvait pas être avant. Et du coup, l'assurance maladie dépense. C'est des sommes qu'elle avait et qu'elle ne dépensait pas, qu'elle versait à la caisse familiale jusque-là. L'assurance maladie va aller encore plus loin dans la prise en charge par le salaire des questions de santé à partir de 70, avec d'une part la prise en charge des maladies de plus de 3 ans, c'est-à-dire des maladies psychiatriques. La psychiatrie relevait de l'aide sociale jusqu'en 70, c'était les budgets départementaux qui finançaient la psychiatrie. Depuis 70, c'est l'assurance maladie. Les psychiatres le savent bien, ça a complètement changé leurs ressources, la logique de leur pratique, en fait, etc. Ils sont lancés dans une logique du salaire socialisé et pas de l'aide sociale. Et puis, mais là, en 75, le handicap congénital. Donc le handicap congénital est également pris en charge par l'assurance maladie, alors qu'il était jusqu'ici pris en charge par l'aide sociale. Donc, nous allons très loin. Hein. C'est pour ça qu'encore une fois, quand on dit que le salaire, c'est le prix de la force de travail, ça reprend la force de travail, tout ça, c'est quand même relativement du pipeau. Hein. Nous avons là un salaire qui assure les dépenses de santé de manière extrêmement large. Là encore, ça fait réfléchir hein, sur ce que c'est que le salaire et l'assurance maladie, certes, c'est un contresens qu'on fait en permanence sur la sécurité sociale. La sécurité sociale, ça sert pas d'abord à consommer. La sécurité sociale, ça sert d'abord à produire. La sécurité sociale, c'est une production non marchande de soins. Mais pas par l'impôt, par un autre dispositif intéressant, qui est la socialisation du salaire. Y compris avec des professions libérales, et pas par des salariés. On peut faire du salaire sans salariés. On peut faire du salaire avec des travailleurs indépendants. le salaire, c'est pas le contrat de travail des juristes, hein, c'est tout à fait autre chose, c'est infiniment plus riche.
J'y reviendrai parce que c'est l'enjeu contemporain, à mon avis, central.
Donc, l'assurance maladie, c'est le fait de c'est l'invention, hein, d'une forme non marchande, sans épargne, et en même temps non étatique. C'est pas l'État, c'est l'institution privée. C'est pas de l'impôt, c'est du salaire. Et les soignants sont des fonctionnaires non salariés, éventuellement. La fonction publique peut... Enfin, non, j'exagère quand je dis ça. Ce sont des fonctionnaires non payés par l'État, plus exactement. Plutôt ça, depuis la fonction publique hospitalière. Ce sont des fonctionnaires non payés par l'État, ce sont des fonctionnaires payés par la Sécurité sociale. Ou des libéraux. Qui relève de la logique salariale. Les médecins conventionnés de secteur 1, ce sont des salariés, tout comme les retraités sont des salariés. Voilà pour l'assurance maladie. L'UNEDIC, je vais à toute vitesse, je galope, parce que c'est tout ça est long. Si je vous ennuie, arrêtez-moi, hein, parce qu'on peut engager le débat tout de suite. L'UNEDIC, là encore... Je crois qu'on peut tendre le cou à un certain nombre de croyances en la matière. Donc l'UNEDIC, vous connaissez un petit peu le dispositif. Croizat, j'ai quand même pas oublié son nom. Le directeur de la Sécurité sociale en 45. Non.
En 45.
Oui, le directeur, le haut fonctionnaire qui dirige... Croizat, c'est le politique, mais l'administratif qui fait le boulot avec le politique, parce que Croizat a mouillé sa chemise aussi. Hein. La CFTC a refusé de participer à la mise en place, elle était contre la sécurité sociale, elle a refusé de participer contre les ordonnances de 1945, les motions de congrès sont absolument stupéfiantes, quand on les relit maintenant. Et donc la CGT a assumé toute seule, et en plus sans les fonctionnaires, sans les gaziers, sans les cheminots, sans tout ça, qui eux s'étaient retirés sur leur inventaire corporatiste. Là, en 6 mois, ils ont fait un boulot formidable, hein, dans le premier semestre 46, mais qui c'était celui qu'on appelle à tort, parce que c'est le père de la sécurité sociale française. Bon, si vous savez pas son nom, après tout, c'est que le roman fonctionne pas trop, et c'est pas plus mal. Ces personnages initiaux avaient envisagé d'inclure le chômage comme il l'était, par exemple, la sécurité sociale est née sur le chômage en Angleterre, par exemple, dès 1911, hein, Churchill, qui est ministre du gouvernement de Lloyd George, met en place une assurance chômage. Bon, en France, c'est celle qui viendra en dernier dans la sécurité sociale. Avec deux institutions fondamentales, l'UNEDIC en 58, qui est créée là encore en dehors du régime général, puisqu'encore une fois le patronat ne veut pas entendre parler du régime général. C'est le dernier point que je traiterai dans ce récapitulatif de l'historique 30-80. L'UNEDIC, c'est un régime complémentaire. Complémentaire. Pourquoi ? Parce que il y a un régime public, hein, que Vichy d'ailleurs avait un petit peu augmenté, qui est un régime libre. C'est les municipalités, les collectivités territoriales, ça peut être les départements aussi, qui créent des bureaux de chômage. Mais c'est un dispositif. Alors Vichy les finance. Il y a un financement public par Vichy pour encourager la création de bureaux de chômage, mais il n'y en a pratiquement pas. Le maillage des bureaux de chômage municipal est extrêmement faible. Bon, il y a une fiction, disons, d'un régime public sur lequel on va créer un régime général, au-dessus duquel, disons, on va créer un régime général, un régime complémentaire, hein, l'UNEDIC, l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l'UNEDIC, avec les associations régionales, les ACEDIC, associations pour l'emploi, l'industrie et le commerce, qui fonctionne sur le système paritaire. Je traiterai l'enjeu du paritarisme dans le cinquième point, sur la gestion du dispositif. Et j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois au départ garantit 30% du salaire à peu près pendant quelques mois. Bon, c'est un taux de remplacement assez faible, et pas très long, mais enfin, qui pose les chômeurs comme des salariés. Qui les pose comme ayant droit à du salaire. Jusqu'à là, ils avaient droit à de l'aide sociale, hein, dans les bureaux municipaux. Donc le salaire sort, là aussi, du travail subordonné. Hein, c'est toute l'histoire du salaire, que de n'être pas, justement, la paye du travail subordonné. Et assume, même modestement, le temps de chômage. La deuxième institution qui va reconnaître des sans-emploi comme des demandeurs d'emploi, c'est la création de l'ANPE en 67. Les ordonnances 67, j'y ai déjà fait allusion pour la santé, elles sont tout à fait catastrophiques, j'y reviendrai dans la gestion, mais toujours le bâton et la carotte, ça c'est août 67, en juillet 67, il y avait une ordonnance sur l'emploi qui améliorait les droits des chômeurs, en particulier en créant une agence nationale pour l'emploi. Alors l'UNEDIC et l'ANPE vont créer le chômage. Avant, il n'y avait pas de chômeur, bien sûr. Si vous n'avez aucun lieu pour vous inscrire comme chômeur, ni aucune raison de vous inscrire puisqu'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de chômeur, bien sûr. Il y avait des femmes. Les femmes, c'est pas chômeur, par définition, c'est des femmes. Donc, l'UNEDIC et l'ANPE vont révéler le sous-emploi. Ils ne vont pas... Quand je dis qu'ils créent le chômage, c'est au sens où ils transforment des inactifs en demandeurs d'emploi. C'est un combat politique majeur que les féministes ont largement assumé, de transformer des inactifs en demandeurs d'emploi. La croissance du chômage n'est pas du tout liée à la baisse des emplois. Hein. La croissance du chômage est liée à la baisse de l'inactivité. Quand on regarde les statistiques, c'est tout à fait évident. Hein. C'est l'inactivité qui s'est réduite, c'est pas l'emploi qui s'est réduit. L'emploi, il a toujours continué à progresser. Mais c'est l'inactivité qui, en se réduisant, a révélé le sous-emploi. Alors, est-ce qu'il vaut mieux être inactif ou chômeur? Voilà la question. Hein. La création de l'UNEDIC et de la NPE a révélé le sous-emploi, a transformé les inactifs en chômeurs. Et pour compléter le tableau, il faut aller un peu plus loin dans le temps avec la création du CDI. Le CDI, c'est une création des années 70, hein, liée à globalement à la loi qui oblige les employeurs à formuler par écrit le motif du licenciement. C'est ça qui va créer le CDI. C'est une loi 72, 73, je ne sais plus. Elle va créer le CDI parce que, désormais, au prud'homme, les employeurs vont pratiquement toujours perdre. À la fois, la loi renverse la charge de la preuve, c'est à l'employeur de prouver et pas au salarié. Et deuxièmement, impose la mention écrite, l'employeur donc ne peut plus changer d'avis en cours de procès. Et donc, la crainte des prud'hommes va nettement encourager la passation de contrats respectant des règles en matière de licenciement. Sur les CDI. Alors, le CDI, bien sûr, va créer le CDD. Tant que vous n'avez pas de CDI, il n'y a pas besoin de CDD. Le CDD, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme l'UNEDIC. Il révèle les petits boulots. Il ne les crée pas. Des collègues de Toulouse ont montré qu'il y a beaucoup moins de petits boulots aujourd'hui que dans les années 50. L'emploi est beaucoup moins précaire aujourd'hui que dans les années 50. Il est beaucoup moins précaire pour deux raisons, à la fois quantitative et qualitative. Non, plus exactement. Nous sommes beaucoup plus proches du plein emploi aujourd'hui que dans les années 50, pour deux raisons, quantitative et qualitative. Quantitative, le taux d'emploi, c'est-à-dire ceux qui ont un emploi, rapporté à la population totale. Le taux d'emploi des 20-60 ans était de 67% en 62, en pleine trente glorieuse, comme on dit. Il est aujourd'hui de 70%. C'est pas très considérable comme progression, mais enfin, le taux d'emploi est supérieur chez les 20-60 ans aujourd'hui à ce qu'il était dans les années 60. Notre illusion vient de ce que nous oublions toujours les femmes dans les statistiques des années 60. Les femmes sont pas comptées puisqu'elles sont femmes. Elles sont pas demandeuses d'emploi puisqu'il n'y a pas de lieu où être demandeur d'emploi. Donc elles sont pas chômeuses. Donc le plein emploi, c'est celui des hommes. Mais si on compte les hommes et les femmes, le taux d'emploi des années 60 est inférieur au taux d'emploi actuel. Quantitativement, donc, nous sommes plus proches du plein emploi. Qualitativement aussi, bien sûr, à cause de l'existence du CDI, à cause d'un certain nombre de droits liés à l'emploi. Cela dit, je vais, dans l'enjeu des réformes, contredit à ce que je viens de dire tout de suite, mais je pose déjà ça quand même parce que c'est extrêmement important qu'on ne fasse pas d'erreur. Le chômage ne vient pas d'une baisse des emplois, le chômage vient d'une baisse de l'inactivité. Une baisse de l'inactivité. Oui. Les femmes étaient inactives.
Ah d'accord, oui, ça y est.
Ça ne veut pas dire qu'elles ne travaillaient pas. Hein. Elles étaient inactives.
Dans les classements.
On les classait comme inactives. Donc il n'y avait pas de chômage. Hein.
Sur les fiches, c'était sans travail. Oui. Sans emploi. Mère au foyer, mère au foyer.
Ouais. C'était bah, quelle fiche au demeurant au recensement. Au recensement. À l'école, oui, mais ça ne c'est pas de statistiques en matière d'emploi, ça. Ah, d'accord, c'était pour qualifier les parents, mais ça ne... Le chômage progresse dans sa qualité de salaire, de droit au salaire pour les sans-emploi pendant toutes les années 70 à travers une invention qui s'appelle le chômage de licenciement économique ou le chômage économique d'une part qui garantit pendant un an le maintien du salaire, enfin 90% du brut, à l'époque les cotisations salariales étaient 10% du brut, donc ça faisait 100% du net, maintenu pendant un an, et avec une définition très large du licenciement économique. Pratiquement tous les licenciements étaient de type économique. Et puis d'autre part, deuxième avancée dans le fait de poser les chômeurs comme des salariés et non pas comme des pauvres, ayant droit à la solidarité nationale, mais comme des salariés ayant droit au salaire, ce qui est le cœur de la sécurité sociale, c'est de dire nous avons droit au salaire, c'est ça la sécurité sociale. Quelle que soit notre activité, ce que nous faisons, etc. Dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est un droit au salaire, droit universel au salaire, c'est ça la sécurité sociale. Avec ce qu'on appelle l'allocation supplémentaire d'attente, enfin dispositif, j'accorde pas le temps non plus, je suis vraiment obligé de courir d'aller à la SERP parce que la matière est immense, mais j'espère être assez, justement tranché suffisamment pour être utile. Ces dispositifs font que à partir de 57 ans, voire de 55 ans, on dispose de 70% de son salaire jusqu'à la retraite. Bon, c'est ce qui va pousser, d'ailleurs, ça va entraîner un coût énorme pour l'UNEDIC, hein, c'est ce qui fera que la gauche, en arrivant au pouvoir, transformera les chômeurs en retraités, hein, en abaissant les conditions de la retraite complète à 60 ans.
Donc ceux qui attendaient d'avoir 65 ans pour avoir une retraite complète se transforment en retraités. Ils étaient jusque-là chômeurs. Ils touchent à peu près pareil, 70% de leur ancien salaire ou un peu plus. Ça dépend de leur carrière, évidemment. Voilà pour l'UNEDIC. J'en termine avec ce point. Donc, qu'est-ce qui se construit de 1930 à 1980 ? Le mode de gestion. Alors, le mode de gestion, là, j'ai donc balayé les quatre branches. J'en viens au mode de gestion. Le mode de gestion, c'est ce qu'on appelle la démocratie sociale, la mention de 45. Alors, qu'est-ce que c'est que la démocratie sociale ? C'est la transposition d'une tradition mutualiste dans l'univers syndical, dès lors que le syndicalisme se substitue à la mutualité en 45, plus exactement oui, on va dire ça, mais je vais m'en expliquer en matière de gestion du régime général. Les assurances sociales 1930 avaient prévu que la gestion serait par des caisses d'affinité. Donc les caisses d'affinité, c'était des caisses mises en place par l'Église, par exemple, hein, qui avait des caisses liées à la caisse familiale et puis qui ensuite s'est étendue, par la CGT, par la CFTC, par le patronat, essentiellement par le patronat, hein, qui avait un comité d'allocation familiale qu'il a étendu pour en faire un comité d'assurance sociale et d'allocation familiale, et puis la mutualité. Et puis ceux qui ne trouvaient pas de caisse d'affinité à la CGT, à la CFTC, à la mutualité, dans des caisses confessionnelles ou dans des caisses patronales, étaient dans des caisses départementales. Les caisses départementales qui étaient des voitures balais, en quelque sorte, de dispositif. Enfin, c'était pensé comme tel, ça devait être résiduel, et puis ça s'est révélé très vite majoritaire. Et en 45, lorsqu'on fait la sécurité sociale, les caisses départementales regroupent 65% des assurés sociaux. Il y a eu un échec des caisses d'affinité, de quelque bord qu'elles soient. Et les caisses départementales étaient des caisses gérées paritairement par des administrateurs désignés, peut-être nommé par les préfets, j'en sais trop rien, et en tout cas sur la base de désignation justement par les mutualités, les syndicats, le patronat, etc. Ce qu'introduit de tout à fait nouveau l'ordonnance de 45, c'est la gestion majoritaire par des administrateurs élus. Alors l'élection sera d'ailleurs une des raisons du refus de la CFTC. L'élection n'est pas acquise en 45, elle le sera en 46. Il y a une modification, disons, des termes de l'ordonnance. Enfin, pas de l'ordonnance en tant que telle, qui reste ce qu'elle est, mais qui donne lieu à un dispositif législatif modifié ou réglementaire, je ne sais plus. D'où les premières élections en 47. Alors, les élections sociales, donc, vous avez, des caisses départementales de sécurité sociale. C'est ça, l'architecture des ordonnances d'octobre 45. Des caisses départementales de sécurité sociale qui prennent le relais des caisses départementales d'assurance sociale, tout simplement. Alors quand on regarde les administrateurs, ils bougent pas avant les élections, ils bougent assez peu. C'est un peu les mêmes que ceux qui étaient là en 46, on a les mêmes que ceux qui étaient là en 43 à peu près. Bon. Sauf quelques patrons qui ont disparu pour des raisons diverses et variées, sauf quelques syndicalistes qui sont arrivés, mais enfin la mutation n'est pas énorme. Ces caisses vont être gérées par trois quarts d'administrateurs salariés élus sur liste syndicale ou de la mutualité et un quart de patrons élus également sur des listes patronales. C'est ce dont le CNPF ne veut pas, quoi. Il perd là la maîtrise d'un dispositif qui était quand même largement le sien dans les allocations, dans les assurances sociales, et un dispositif qui va se révéler énorme financièrement progressivement. Donc il y a un enjeu considérable. Les élections sociales sont des élections politiques majeures, hein,
47, 50, parce que celle de 47 aurait dû avoir lieu en 45, disons, donc 5, c'est tous les 5 ans. Hein. 55, 62, parce que quand il arrive au pouvoir, De Gaulle essaye de les supprimer, bon, il n'y parvient pas, elles ont lieu en 62, et puis elles sont supprimées en 67. La CGT est majoritaire, mais dirige pratiquement aucune caisse parce que l'alliance FO-CFTC-MEDEF, enfin CNPF, fait qu'elle ne dirige pratiquement aucune caisse, quelques-unes, mais très peu. Cela dit, on a une invention sociale tout à fait intéressante dans laquelle quelque chose qui est quand même financièrement énorme est géré par des élus qui ont des pouvoirs. Hein. C'est pas du tout les caisses de sécurité sociale. D'abord, nomment leur directeur, c'est nommé par le conseil d'administration, décident des cotisations, des prestations. Enfin, ont un pouvoir tout à fait considérable. C'est pour cela que il va y avoir une bagarre énorme dès 46. D'ailleurs, une première mouture de la Constitution de 46 échoue très précisément, non pas à cause du contenu de la Constitution, mais parce qu'il y avait un conflit emmené par ce qui restait de la droite, l'Église et la CFTC, contre les ordonnances de 45, et qui ont demandé, pour manifester leur refus d'ordonnance, à voter non à la Constitution de 46. Et la première Constitution de 46, donc, elle n'a pas été votée, elle a échoué. Il a fallu un nouveau vote. Ce front du refus va l'emporter partiellement autour du thème « On ne peut pas confier nos familles aux rouges », globalement, c'est ça. Et donc, les caisses d'allocation familiale vont être séparées des caisses de sécurité sociale. C'est pour ça que vous allez avoir deux caisses départementales, celle de sécurité sociale, et qui est compétente en vieillesse et en santé au départ, hein, et puis les allocations familiales, qui en 49 donc sont autonomes, et avec moitié seulement d'administrateurs salariés. Nous sommes là dans le paritarisme. 49, c'est déjà, on est déjà loin de 45, hein, la dynamique s'essouffle, cette coalition CFTC, Église, droite, l'emporte. Donc ça, c'est une première difficulté, mais cela dit, encore une fois, il s'agit d'élections politiques vraiment très importantes, qui ont un écho dans la presse, tout ça énorme. Auxquelles les ordonnances 67 vont mettre fin au bénéfice de la désignation des administrateurs, et cela sur le mode paritaire. Compte tenu qu'il y a globalement un patronat relativement uni pour un syndicalisme dispersé, paritaire ça veut dire gestion patronale, ou par un faux-né syndical. Pourquoi il y avait urgence? À cause de la déconfessionnalisation de la CFTC, hein, et de l'alliance CGT-CFDT qui se manifestait dès 62 déjà par un certain nombre de caisses dirigées par la CGT ou par la CFDT, enfin la CFTC encore, mais sur la base d'une alliance claire CGT-CFDT. Là, il y a eu un affolement du patronat qui a fait paraître un livre blanc 65 et qui a trouvé dans le gaullisme un appui pour en finir avec la démocratie social. Vous avez eu, vous vous rappelez peut-être l'épisode un peu rocambolesque d'une gauche qui en 82 rétablit les élections, mais dans des conditions telles que les élus le seront jusqu'en 96, jusqu'à ce que Juppé commence un processus d'étatisation du dispositif, avec marginalisation de tout ce qui ne relève pas d'une logique d'État. Mais j'en viens maintenant justement aux enjeux de la réforme. Mais est-ce que je peux vraiment les traiter? Parce qu'il y a
un quart d'heure.
Alors, les enjeux de la réforme. la réforme, si vous voulez, des dates, en gros, c'est les décrets Bérégovois de 82 et la convention de 84 à l'UNEDIC. Ensuite, c'est comme données initiales. Ensuite, tout en découle. Hein, mais là, nous sommes là dans l'évolution majeure sans la loi Bérégovois et à IFO qui signe la CFTT, qui signe la convention de 84. Ensuite, vous avez donc ce gain en 87 pour la pension. Ça, c'est l'inflexion majeure. En matière de pension, en matière de famille, c'est la CSG de Rocard en 91. Et en matière de santé, c'est 85, le nouveau code de la mutualité. Donc, vous voyez, nous sommes là sur un espace assez réduit, 82, 91, hein, où là, nous avons une inflexion majeure du dispositif à l'initiative pour l'essentiel des gouvernements socialistes, un petit peu la droite quand elle est au pouvoir en 86, 87. Alors, cette inflexion, quelle est-elle? Cette inflexion, c'est l'introduction d'une logique de piliers qui transforme la socialisation du salaire en un binôme solidarité nationale, dispositif professionnel, solidarité nationale à base fiscale, disons, et gérée par l'État, et dispositif professionnel ou interprofessionnel faisant appel à l'accumulation financière et à la libre compétition des prestataires financiers sur le marché européen des capitaux. Voilà pour dire les choses globalement. L'enjeu de la réforme, c'est d'en finir avec le salaire. Ceux qui sont pour l'abolition du salariat seront contents. mais ils doivent rire jaune parce que précisément, le salaire, c'est un dispositif fondamentalement anticapitaliste, je vais y revenir. Et il s'agit de substituer un dispositif qui, lui, tente d'être fonctionnel. Enfin bon, je n'ai pas du tout une vision pessimiste de l'évolution des 20 dernières années, parce que ça n'est pas fonctionnel, précisément, ça échoue. Et au contraire, le salaire a des atouts de progression tout à fait considérables, je conclurai là-dessus. Mais l'enjeu, me semble là, c'est d'en finir avec l'emploi, de tenter d'en finir avec l'emploi, avec le salaire, et de promouvoir le marché du travail à travers une réforme qui coupe la prestation en deux piliers, un pilier public, fiscalisé, CSG par exemple, d'accord, et un pilier professionnel ou interprofessionnel, faisant appel à l'accumulation financière. Je parle d'abord des deux piliers, ensuite je verrai cette triple figure hein, de l'emploi, du salaire et du marché du travail, qui est en bagarre considérable aujourd'hui. Et quelles sont les pistes pour une sortie par le haut de cette bagarre? D'abord, mais l'instrument de la réforme, ce sont les deux piliers. Les deux piliers, c'est un dispositif qui pose comme légitime en matière de protection sociale, d'une part, une solidarité nationale, assuré par l'État, sur une base fiscale ou sur la base d'une rémunération, mais qui n'est plus le salaire. Et d'autre part, un second pilier, qui est un pilier qui repose sur la prévoyance, qui fonctionne par compétition entre organismes financiers. Ça, c'est le modèle de la réforme. Encore une fois, cette réforme largement échoue. Mais il faut bien avoir le modèle pour comprendre les enjeux. Je ne tiens pas du tout un discours misérabiliste, tout fout le camp, c'était si bien avant, précarisation, j'ai dit le contraire. Hein, donc, c'est pas du tout ça. Prenons les risques un par un. Si vous prenez la santé, vous voyez apparaître, je regardais encore, j'ai un fils qui a l'Amgen Filia, et je lisais l'éditorial du patron de l'Amgen Filia, MGEN, qui est la plus grosse mutuelle actuellement, hein, depuis toujours pratiquement. Hein. Je regardais l'éditorial, et je riais dans ma barbe parce que bon, je savais ce que j'allais y trouver d'avance. Et alors, c'est une grande protestation. C'est pas au complémentaire d'assurer ce que l'État ne fait pas dans l'obligatoire. Mais vous voyez, le mot complémentaire et le mot obligatoire, il est apparu très récemment dans le vocabulaire. On parlait jamais d'assurance maladie obligatoire. C'était l'assurance maladie tout court. Jamais on ne l'a qualifié d'obligatoire. Jamais. Et il ne serait jamais venu à personne d'appeler les mutuelles de l'assurance maladie.
C'était quoi ?
Ben, c'était des mutuelles.
Tout simplement.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que progressivement, ça a des effets cognitifs très importants, tout cela. Progressivement, se légitime l'idée que il y a deux piliers en matière de santé. Il y a un premier pilier qui est l'assurance maladie obligatoire. Et puis un deuxième pilier qui est l'assurance maladie complémentaire. Oui, il y a un troisième pilier à base d'épargne individuelle, mais enfin, il est quand même peanut, celui-là, donc c'est pas fondamental. Le premier pilier, c'est un changement complet. Jusque aux années 80, l'assurance maladie voit sa part progresser dans la couverture de santé. Elle était à 40% à peu près de la consommation de santé dans les années 50, elle progresse jusqu'à 77-78% au milieu des années 80. Depuis, elle stagne, elle baisse un tout petit peu, enfin, stagnant, elle est à 75%, elle bouge. 75% de la dépense de santé est assurée par l'assurance maladie, dite obligatoire. Cette assurance maladie obligatoire, il est clair, depuis 85, là, les débats parlementaires sur la réforme du code de la mutualité sont extrêmement intéressants. J'ai une doctorante qui est en train de les travailler et j'ai découvert des tas de choses sur le débat. C'est un débat entre socialistes et communistes, pour l'essentiel, hein, dans lequel les socialistes disent clairement que l'assurance maladie n'a pas vocation à assurer la totalité de la dépense de santé. Répondant à une demande des mutuelles, c'est la réforme du code de la mutualité en 85, il faut élargir le champ de la mutualité et donner plus de poids, non pas d'ailleurs à la mutualité, mais à un marché du complémentaire à créer entre les IP, ce qu'on appelle les IP, les institutions de prévoyance, c'est-à-dire ces institutions paritaires, qui, à travers Méridique, enfin, Médéric, je ne sais pas si certains d'entre vous peut-être connaissent ça, parce qu'ils sont salariés du privé, sont des instances paritaires de gestion de la prévoyance et de la santé. C'est pas des mutuelles, c'est paritaire. Et les plus gros sont nés dans la mouvance du patronat de du bâtiment ou du patronat de la métallurgie. Médéric, c'est la métallurgie, le bâtiment, je sais plus ce que c'est, mais enfin bon. Et puis les assureurs privés. La loi Evin de 89 va organiser ce marché du complémentaire, et puis va se poser la question de la transposition des directives assurances. Il y a des directives assurances au niveau européen, et est-ce qu'on les transpose à la mutualité? La mutualité, au départ, une position de ni-ni. Ouais, mais là, il faut quand même, pour pouvoir que j'explique ça, oh là là, je m'embarque dans des trucs. Il faut comprendre quelle est la politique communautaire des deux piliers. La politique communautaire des deux piliers était définie par une jurisprudence constante de la Cour de justice des communautés européennes. Il faudrait peut-être une autre séance pour tout ça, parce que... j'avance un tout petit point. Qui pose comme la norme pour les prestations sociales en Europe la concurrence sur le marché des capitaux entre prestataires de services financiers. Ça, c'est la norme. Et puis, il y a une exception qui est le monopole public aux fins de solidarité. La protection sociale, donc, s'organiser autour du marché des capitaux avec un dispositif étatique de solidarité.
Et c'était quoi le dispositif étatique?
Alors, le dispositif étatique de solidarité, c'est l'assurance maladie obligatoire.
Ah, c'est celle-là.
C'est pour cela que vous avez, depuis la réforme Balladur, déjà qui crée un point, je crois, mais surtout depuis la réforme Jospin, hein, qui supprime la cotisation salariale en matière d'assurance maladie, une fiscalisation de l'assurance maladie. L'assurance maladie relève de la CSG, sauf pour la part patronale de la cotisation qui est demeurée, elle, liée au salaire. Sous, d'ailleurs, l'argumentaire détaxant le travail, qui consiste à considérer une cotisation sociale comme une taxe sur le travail, ce qui est une façon... C'est la novlangue, ça. Hein, la novlangue, vous connaissez. Hein, il suffit de lire le contraire de ce qu'on lit pour avoir la vérité. La détaxation du travail légitime donc que ce soit la CSG qui finance l'assurance maladie, ou non, que la maladie n'aurait rien à voir avec le travail. Mais la maladie, le problème, c'est que le salaire, c'est pas le travail, précisément. Ce que l'on est en train de détruire, c'est le fait que la maladie ait à voir avec le salaire. Et que, n'ayant plus à voir avec le salaire, elle se détricote en deux parts, l'une étatique, ça c'est la réforme Juppé, applaudie par la mutualité, applaudie par la CFDT, applaudi par le Parti Socialiste, la réforme Juppé de 86, qui étatise l'assurance maladie, de 96, je vais y arriver, oui, qui étatise l'assurance maladie, et dans la foulée, en 97, Jospin, qui la fiscalise. Et la transposition, maintenant, de la directive assurance qui impose que les mutuelles deviennent des compagnies d'assurance, ce qu'elles sont maintenant, c'est-à-dire financer progressivement sur le placement des cotisations, avec une exigence, pour des raisons de solvabilité, de sécurité, etc., de réserve dont elles n'avaient jamais eu besoin. La mutualité en matière de santé, c'est une sécurité sociale bis, c'est-à-dire une cotisation en fonction du salaire et une dispersion immédiate
en prestation des cotisations, en fonction des besoins. C'est ça la Sécu. Nous voyons arriver maintenant des menus différents dans les propositions des mutuelles. Alors, la MGEN, c'est celle qui résiste le plus parce qu'elle en a plus les moyens, mais c'est la dernière, globalement. On a maintenant des menus différents en fonction du risque. Donc, ce n'est plus une cotisation en fonction des ressources, une cotisation en fonction du risque qu'on veut couvrir. Et puis, une part croissante des placements dans le financement des prestations. Les mutuelles relèvent de la même organisme de contrôle que les assurances. Les assureurs ont renoncé, pour pouvoir bénéficier des dispositifs fiscaux, ont renoncé au questionnaire de santé. Je cherche, moi, en vain, quel est le papier de cigarette qui différencie une mutuelle d'une compagnie d'assurance. Nous avons maintenant des prestataires de services en concurrence sur le marché des capitaux européens. Et la logique salariale a disparu par les débouts. Par le bout, assurance maladie obligatoire, en voie de fiscalisation. Par le bout, assurance maladie complémentaire, qui repose sur l'accumulation financière et non pas sur la logique du salaire. Alors ça, c'est le modèle. Est-ce que ça marche ? Pas si bien que ça, hein, bien sûr. Hein. Ça ne suscite pas les résistances qu'on pourrait attendre, cela dit. Hein. Il y a une relative admission de la CSG, qui est la plus grande saloperie du siècle en matière de sécurité sociale, certainement. Et il y a une relative défense des mutuelles, hein, qui, elles, n'ont pas d'actionnaires. Mais bien sûr, elles alimentent la partie dévalorisée du capital. Pas besoin d'actionnaires pour ça. Les actionnaires ne vont pas s'emmerder avec ça. Mais elles sont dans la logique du capital, totalement. D'ailleurs, les mutuelles embauchent à tour de bras des spécialistes de l'assurance pour les diriger. Donc voilà comment le salaire recule ou peut reculer au bénéfice d'un binôme, le panier de soins, alors qui peut être élevé, au moins au départ, peut être élevé le panier de soins. En plus, il doit l'être parce que les pandémies, on n'a aucun intérêt à voir réapparaître la tuberculose, ce qui est pourtant en risque actuellement. Donc, les pandémies posent problème. Donc, le panier de soins ne sera pas forcément, au moins au départ, le minimum, certainement pas, ça, il ne l'est pas en tout cas. Mais le modèle, c'est cela, c'est un panier de soins de solidarité nationale, et ensuite, avec la CMU, bien sûr, hein, la sainte CMU, hein, lutte contre la pauvreté. Dès que vous entendez lutte contre la pauvreté, vous êtes dans la merde. Hein. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre ? C'est quelqu'un à qui le salaire est refusé, c'est ça un pauvre. Prenons le chômage, précisément. Le chômage, en même temps que vous avez une rétraction du salaire avec les décrets Bérégovois, c'est eux qui créent les filières. Vous avez cotisé 6 mois, vous avez le droit de 6 mois de chômage, etc. D'accord ? Avant, il n'y avait pas de lien entre la durée de cotisation et la durée de prestation. C'est Bérégovois qui crée ça en 82, sur pression patronale. Et en 84, il se trouve des syndicalistes également pour l'assumer. Et ensuite... vous allez avoir une rétraction du champ des chômeurs assumés par le salaire, et donc création du RMI. Qu'est-ce que c'est que le RMI ? C'est la transformation de salariés en pauvres. Le taux de retour à l'emploi des RMI, c'est le même que celui des chômeurs. C'est le même. Les RMistes, c'est des chômeurs. Sauf que c'est des chômeurs qui ne sont pas reconnus comme tels. Ils n'ont pas droit au salaire. Ils ont droit à la solidarité nationale. Ils ont droit à la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, j'ai désigné la CSG comme ennemi, la mutualité, la lutte contre la pauvreté certainement. La lutte contre la pauvreté, c'est aussi qualifier quelqu'un de pauvre. Imaginez quelle violence sociale c'est lui faire. Personne n'est pauvre. Dès lors que vous appelez quelqu'un pauvre, c'est que vous avez admis qu'il n'appartenait pas au statut commun, et qu'il n'y avait pas droit, et qu'il allait avoir droit à des discriminations positives. Là aussi, une belle saloperie. Donc le RMI, qui transforme des salariés en pauvres. Mais là encore, nous sommes dans cette logique d'un dispositif public qui est chargé de la solidarité nationale, puis d'un dispositif professionnel. Le schéma n'est pas encore complètement complet, hein, c'est l'accord de janvier dernier qui le crée. L'accord de janvier dernier, qu'est-ce qu'il fait ? Signé par la CFDT, FO, un peu tout le monde sauf la CGT, tant que je m'en souvienne. L'accord de janvier dernier sur la modernisation du marché du travail, qu'est-ce qu'il crée ? Il crée la séparation conventionnelle. Séparation à l'amiable, sur le modèle du divorce. D'ailleurs, on a beaucoup invoqué le modèle du divorce pour dire dépénalisons, dérégularisons, tout ça. Après tout, l'employeur se sépare comme d'un salarié, comme un couple se sépare. On va pas s'emmerder avec... les signataires de l'accord sont d'accord, hein, puisqu'ils ont signé cet accord sur quelle est la carotte de l'accord ? C'est l'indemnisation systématique de ces désaccords constatés. Alors que, actuellement, les démissions ne sont pas indemnisées. Les fins de CDD ne sont pas indemnisées, d'accord ? Là, vous allez avoir une indemnisation plus forte. Par qui ? Par l'État. Les partenaires sociaux ou les prétendus tels se sont mis d'accord pour que ce soit l'État qui assure cette indemnisation systématique des ruptures conventionnelles qui se substitueront au licenciement, aux démissions et aux CDD. Là, vous avez uniformité du CDI. C'est le triomphe. Le premier article, d'ailleurs, de cet accord, c'est le CDI et la forme normale. Ça peut être de la novlangue. À lire, ça veut donc dire que c'est pas la forme normale. Mais, j'ai examiné avec soin la chose, c'est pas vraiment la novlangue. On est bien dans une optique de généralisation du CDI. Pourquoi? Parce que le CDI va pouvoir être, conclu par des ruptures conventionnelles qui donnent droit à indemnisation systématique par les contribuables. Vous avez donc une solidarité nationale. Vous avez vu que se profile également un financement par l'État du passage de 50 à 60% en cas de chômage partiel. C'est l'État qui financera. C'est pas les employeurs, c'est pas le salaire. Nous sommes dans la solidarité nationale. C'est pas des salariés qui ont droit au salaire, c'est des pauvres qui ont droit à la solidarité. Cette victimisation, faut faire très attention dès qu'une catégorie est victimisée. La victimisation comme instrument fondamental du recul des droits salariaux. Les pauvres jeunes. Une victimisation massive des jeunes. Qui fait qu'on peut les embaucher pour des salaires qui ne respectent pas du tout leurs qualifications. Donc ils ne sont pas du tout en situation salariale, sans situation de solidarité avec des pauvres. C'est le problème majeur de la jeunesse, c'est que le statut de salarié lui est dénié. Et sur cet étage solidarité nationale fiscalisée, alors vous avez des cotisations sociales qui vont garantir un taux de remplacement du salaire pour ceux qui auront cotisé suffisamment longtemps, etc., pour les chômeurs. Et avec des droits supplémentaires. Le droit au reclassement, un service public de l'emploi davantage financé, éventuellement par une taxe de type pollueur-payeur, sur les employeurs qui licencient. C'est ce qui se profile comme avenir des prochains accords ou prochaines lois. Et une obligation de résultat et non plus de moyens pour le service public de l'emploi en termes de reclassement, moyennant une acceptation par le salarié de l'offre valable d'emploi, l'essentiel de la chose étant le valable. Encore, on est dans la novlangue. Est-ce que vous voyez ce que c'est que
un marché du travail comme avenir possible là. Hein. Ce qu'on appelle la sécurisation des parcours professionnels, c'est la création d'un marché du travail là où il n'y en avait pas suffisamment. Il s'agit que les salariés n'hésitent pas devant le recours récurrent au marché du travail. Pour cela, il faut améliorer l'indemnisation, mais sur deux étages, premier et second pilier. Il faut améliorer le service public de l'emploi. Et il faut rendre portable d'une boîte à l'autre certains droits. Des droits qui sont liés à des comptes épargne temps, comptes épargne formation, comptes épargne santé, comptes épargne retraite. Nous ne sommes plus dans le salaire. Le salaire, c'est ce qui envoyait au plot l'épargne. Nous sommes dans le marché du travail avec des prévoyants. Mais des prévoyants qui ne sont pas laissés à eux-mêmes. Des prévoyants qui sont assumés par l'État. La prévoyance, elle est assumée par l'État. Qui garantit la portabilité des comptes épargne. Et qui rend possible une logique de prévoyance parce que l'État assure une prestation de base. La bourgeoisie européenne a beaucoup réfléchi sur l'échec anglais. Énormément réfléchi. Elle considère que c'est un très mauvais modèle, que le modèle anglais. Exit au passage à toutes nos âneries sur la vague néolibérale qui aura envahi l'Europe. L'Europe, elle obéit, les politiques communautaires, c'est des politiques nordiques pour l'essentiel. Parce que les élites européennes sont très bien compris que le modèle nordique, comme modèle capitaliste, fonctionne beaucoup mieux que le modèle anglais. Et l'échec anglais, pas tant en matière de pension, mais je vais le transposer en matière de marché du travail, l'échec anglais, c'est, en matière de pension, d'encourager à l'épargne sans assurer une pension publique suffisante. Or, pour accéder au marché financier, il faut avoir une garantie d'une pension publique suffisante, qui donne un horizon et qui donne l'audace d'aller sur le marché financier. L'échec anglais vient de ce que, faute d'une pension publique suffisante, les Anglais, pour assurer leur vieux jour, se réfugient dans l'immobilier. Ils n'ont pas les moyens et ils n'ont pas l'encadrement non plus suffisant pour affronter le marché des capitaux. La réforme anglaise, d'ailleurs, parce que les Anglais sont pas cons, ils ont évidemment pris la réforme anglaise consiste à augmenter massivement la pension publique et à faire une collecte sous un organisme public de l'épargne en vue de la retraite. C'était pas ensuite étant géré par des instances lié au marché des capitaux. Mais la collecte est celle d'un organisme public. Nous sommes là dans ces deux piliers. D'accord? Il n'y a plus de salaire en matière de pension. Il y a d'une part une pension publique et d'autre part une retraite par capitalisation mais totalement encadrée par l'État. Par des règles de concurrence. Et Dieu sait si l'Union européenne est extrêmement attentive aux règles de la concurrence. Aux règles étatiques de la concurrence. Nous allons vers la même chose en matière d'emploi. Le modèle est le même. Si nous voulons que les salariés aillent vraiment sur le marché du travail, soit volontaire pour des mobilités professionnelles soit l'occasion de vérifier leur employabilité, soit volontaire pour qu'en permanence leur qualification soit remise en cause derrière une injonction de formation, qui ne les qualifient pas, hein, qui montrent au contraire leur distance à l'emploi. Puisque le premier acte que l'on fait quand on est chômeur, c'est on est trié selon sa distance à l'emploi. Puisque c'est la distance à l'emploi qui donne la somme que l'organisme de reclassement va toucher. Si vous êtes très distant, il aura une grosse somme. Si vous n'êtes pas distant, il aura une petite somme. D'accord. En permanence, il s'agit donc de suspecter la qualification. En permanence, il s'agit de poser l'individu dans une espèce d'incertitude, hein, puisqu'il est toujours distant à l'emploi. Son employabilité est en permanence en cause. Bien, il s'agit de l'accompagner par des droits nouveaux. Portabilité des comptes épargne divers et variés, d'une entreprise à l'autre, avec obligation pour l'entreprise d'assumer les droits à la formation acquis dans une précédente, en fait, etc., etc. Amélioration de l'indemnisation, obligation de résultat pour le service public de l'emploi. Ça, c'est le modèle de la réforme, ce qu'on appelle la sécurisation des parcours professionnels. Le salaire, c'est tout à fait autre chose. La poursuite du salaire, si toutefois je me suis fait comprendre sur comment s'est construit le salaire dans notre pays au cours du XXe siècle, la poursuite du salaire, c'est au contraire l'affirmation de la qualification des individus. À travers l'attribution de la qualification à la personne des individus et non pas à leur emploi. La mise en cause de l'emploi que fait le patronat, aujourd'hui, elle peut être utilisée dans une perspective progressiste. Plutôt que de chercher à tout prix des employeurs. On veut des employeurs pour négocier. Ah bon? Cet effacement de la figure de l'employeur que nous connaissons aujourd'hui peut être mis à profit pour une affirmation universelle du salaire. Alors attention, le salaire universel, c'est le contraire du revenu universel. Le revenu universel, chacun a un forfait, et puis là-dessus, il y a un marché du travail, qui est d'autant plus un marché que comme il y a un forfait, il n'y a pas de raison de respecter des règles quelconques sur le marché. Le revenu universel, c'est extrêmement dangereux, parce que ça crée aussi un marché du travail, plus mauvais que le marché que tente de créer la réforme, puisqu'il est garanti par une espèce de prestation universelle qui permet aux employeurs de ne pas reconnaître les qualifications, etc. Non, le salaire universel, c'est la poursuite de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est le salaire universel, mais dans le hors-travail, je dirais. Hein. C'est le salaire pour la santé, c'est le salaire pour la vieillesse, c'est le salaire pour la famille, etc. C'est le salaire pour le chômage. Je me corrige quand même, parce que la sécurité sociale, ça sert d'abord à produire et pas d'abord à consommer. Plus exactement, il faut bien produire ce qu'on consomme. C'est le salaire non marchand des soignants, par exemple. Y compris s'ils sont libéraux. Il n'y a pourtant pas de marché. Dès lors qu'il y a convention, secteur 1, bien sûr. Poursuivre le salaire dans un sens universel, c'est attribuer la qualification non pas au poste de travail, mais à la personne même. Et donc le salaire qui va avec. Le salaire comme un attribut de la personne, non pas comme un attribut de l'emploi.
Dans quel sens
que c'est ce que balbutie un peu la CGT aujourd'hui autour du nouveau statut du travail salarié, autour de la sécurisation professionnelle, qui est l'antagoniste de la sécurisation des parcours professionnels, en le sens que des instances, là c'est là que la réflexion est encore extrêmement balbutiante, hein, des instances à définir, mais qui existent déjà dans la VAE par exemple. Il y a déjà quand même beaucoup d'instances. Des instances de validation des acquis d'expérience. Des instances attribuent à chacun une qualification. et le salaire qui va avec, puisque le propre du salaire, c'est qu'il y a un lien entre la hiérarchie des qualifications et la hiérarchie. Nous sommes bien dans la hiérarchie, on n'est pas dans le salaire forfaitaire. Hein, nous sommes dans une hiérarchie des salaires, dans une hiérarchie des qualifications. Ce salaire attribué à la personne et non pas à l'emploi ne peut pas être perdu lorsqu'on perd son emploi, bien sûr, puisqu'il est attribué à la personne. La fonction publique a déjà une anticipation de cela, hein, puisqu'un fonctionnaire, il est payé pour son grade et non pas pour son poste. Un fonctionnaire sans poste est payé, parce qu'il est payé pour son grade. Et le grade, c'est l'attribut de la personne. C'est pas un attribut du poste. La distinction grade-poste anticipe, mais anticipe d'une façon qui est, un, corporatiste. On en a encore à des fonctionnaires qui défendent leur statut en disant « mais nous avons une spécificité dans ce que nous produisons qui légitime notre statut », comme s'il était plus spécifique de produire de la culture, de la santé, que de produire des patates ou des avions. Moi, je n'arrive pas à voir où est la spécificité. Une défense autrement plus intéressante de ce qui est fonctionnaire serait de dire « mais tout le monde devrait avoir un salaire lié à sa qualification et non pas lié à son poste de travail. » L'effacement de la figure de l'employeur ne doit pas nous amener à une défense totalement régressive de l'emploi. Il s'agit au contraire, dans la logique du salaire, de défendre la qualification, non pas le plein emploi, mais la pleine qualification. Qualification pour tous, et donc salaire pour tous. Impossibilité d'une régression dans la qualification et dans le salaire, possibilité de progression passant des épreuves, là encore, quelles épreuves, quelle est la sanction, enfin tout ça, dès lors que ce n'est plus un marché. C'est quand même surprenant que l'on soit tellement attentif à ce que l'eau ne soit pas l'objet d'un marché, et si peu attentif à ce que les personnes au travail ne soient pas l'objet d'un marché. Or, si les mots ont un sens, supprimer le marché du travail, c'est forcément attribuer la qualification et le salaire à la personne. Sinon, on est toujours dans le marché. Et ça, il n'y a pas une grosse embardée à faire, il y a à continuer ce que fait la sécurité sociale. C'est pour ça que je soulevais l'idée que les retraités ne sont pas payés, un, à cause de leur travail passé, ça c'est évident, mais pas à cause du travail des autres. Les retraités sont payés à cause de leur travail.
De ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils font.
Non, pas de ce qu'ils ont fait, mais de ce qu'ils font. Alors, de ce qu'ils sont, voilà, en termes de qualification. Qu'est-ce que c'est que, dans la fonction publique, la retraite, c'est la poursuite du salaire, ça c'est clair. Dans le secteur privé, c'est l'attribution à la personne, alors, d'un forfait de qualification correspondant aujourd'hui aux 25 meilleures années. C'est une grosse régression, c'est sûr, par rapport aux 10 meilleures, mais il s'agit bien d'attribuer à vie à la personne l'espèce de qualification moyenne de son activité, d'accord ? Et c'est au titre... Et pourquoi est-ce qu'on le fait ? C'est très sage. À 60 ans, on n'entre pas en coma profond. Hein, et évidemment, ce qu'on va faire sera à proportion de ce qu'on a fait. Et donc, attribuer à vie la qualification, ça n'est jamais que reconnaître de façon extrêmement saine la richesse que produisent les retraités. En ce sens, il n'y a aucun problème démographique. Plus il y a de vieux, plus les vieux produisent. Donc, où est le problème ? La seule question à se poser, c'est pourquoi s'arrêter ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas progresser en qualification comme retraité ? Ça, oui. Dans la logique du salaire universel, comme continuation de la sécurité sociale, il s'agit bien sûr que quelqu'un qui prend sa retraite continue à progresser en qualification. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. La responsabilité des retraités, c'est puisqu'ils sont payés pour ce qu'ils font,
pour leur qualification, pardon, c'est d'inventer des rapports nouveaux au travail. Ils le font d'ailleurs. Est-ce que la commune libre existerait sans retraités? À mon avis, je crois pas. Je la connais pas, mais enfin, à mon avis, c'est à peu près sûr que non. Imaginez les conseils municipaux, imaginez des tas de choses, mais imaginez même des lieux de production, hein. Les retraités ont une responsabilité énorme, hein. Puisqu'ils sont payés pour du travail non subordonné, c'est d'inventer justement, hein, des formes collectives dans l'espace public du travail non subordonné. Non seulement du travail non marchand, mais du travail non subordonné. Il n'y a pas besoin d'employeur. Il y a besoin de hiérarchie, parce que toute activité est collective, avec des échéances, avec des etc. etc. Et on ne peut pas, jusqu'à nouvel ordre, inventer des collectifs sans hiérarchie. Il n'y a pas besoin de subordination à un employeur qui décide de votre qualification, avec une sanction par le marché du travail. Vous voyez, le modèle nordique est extrêmement pernicieux. Parce qu'il présente comme un progrès une formidable régression. Il présente comme un progrès le marché du travail. Alors que toute la sécurité sociale, ça a consisté à nous libérer des employeurs. Qu'est-ce que c'est que l'assurance maladie? C'est un droit salarial sans employeur. Qu'est-ce que c'est que l'assurance vieillesse? C'est un droit salarial sans employeur. Et les pays qui continuent à assumer par la responsabilité des employeurs la maladie, la vieillesse, ça donne quoi? Ça donne les USA. S'agissant de la maladie, en vieillesse, ils ont été très sages et ils ont supprimé la logique d'employeur pour la vieillesse. En matière de maladie, ils ont conservé la logique d'employeur, ça donne quoi? De la merde, très coûteuse. Libérons-nous des employeurs par le salaire.
Voilà une heureuse conclusion. Bien, il est un peu tard, mais ça valait le coup, hein. Est-ce qu'il y a quelques questions? Est-ce que Bernard est un grand brasseur d'idées, hein?